Vous écoutez Europe 1 ? Il est 19h.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. La bataille des retraites, round 2. À la veille d'une probable nouvelle très grande mobilisation syndicale, le texte est à l'Assemblée ou en commission. Chaque groupe y va de son approche politique. Du droit à la paresse, à la défense de la valeur travail. Après 19h20, nous serons avec Mathieu Lefèvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Vos questions au 39-21, le standard d'Europe 1 est ouvert. Avant cela, comme tous les soirs, le grand journal de 19h présenté par Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Un témoignage poignant dès le début de ce journal, celui de la mère du jeune Lucas, 13 ans, qui a mis fin à ses jours après un harcèlement de ses camarades lié à son homosexualité. Sa mère tend la main aux quatre ados qui seront jugés prochainement. On parlera bien évidemment de la réforme des retraites, grève, manifestation, comment les Français comptent s'organiser demain et quelles sont les prévisions du renseignement sur l'ampleur de la mobilisation dans la rue. Dans ce journal, le pré-rapport de la Fédération de foot accablant pour Noël Le Graët et le panier anti-inflation prévu à partir de mars avec une cinquantaine de produits. Enfin, un nouveau caillebotte accroché au musée d'Orsay, peinture impressionniste classée trésor national. Elle s'intitule Partie de bateau.
Dans quelques secondes, nous revenons donc sur l'affaire du jeune Lucas, victime de harcèlement et disparu début janvier. Nous parlerons du harcèlement scolaire après 19h45, également avec Hugo Martinez, lui-même victime pendant son enfance et à la tête d'une association aujourd'hui. Venez témoigner, car c'est un fléau qui touche beaucoup d'entre nous. Je vous rappelle le numéro, le 39-21. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël.
Heureux de vous revoir pour une nouvelle tendance météo.
Et oui, c'est gentil, plutôt calme la tendance. Le temps de demain sera généralement sec et nuageux, on n'exclut pas quelques petites précipitations. Grand soleil des Alpes à la Méditerranée jusqu'aux Pyrénées, toujours du vent dans le sud-est et des températures de saison. On fait le point complet à la fin du journal.
A tout à l'heure Marlène. Une mère dans la douleur qui prend la parole pour honorer la mémoire de son enfant.
Elle s'appelle Séverine. Son fils, Lucas, s'est suicidé à 13 ans, chez lui, à Golbey, dans les Vosges, moqué, insulté en raison de son homosexualité. Quatre adolescents du même collège seront bientôt jugés pour harcèlement. Aujourd'hui, Mélina Fachin, la maman de Lucas, parlait pour la première fois.
Oui, une épreuve supplémentaire pour Séverine, les mains crispées, les traits tirés. Mais cette mère de deux autres enfants tenait d'abord à exprimer sa douleur.
Ça fait 3 semaines et voilà, on ne réalise toujours pas. Et c'était un super petit garçon en fait. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver.
Elle reproche aussi au collège de Lucas de ne pas avoir mesuré la gravité de la situation.
Ah oui, clairement, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Des mesures disciplinaires auprès de ses élèves. Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même.
Une enquête contre X est en cours pour non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs. Quant aux 4 adolescents de 13 ans qui seront jugés au printemps pour harcèlement, ils risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, mais ce n'est pas ce que leur souhaite Séverine.
Ça reste des enfants. Je veux qu'ils reconnaissent déjà et que ça les fasse réfléchir, enfin, voilà, qu'ils ne recommencent pas. Quand on ira faire des interventions et tout, voilà, qu'ils viennent avec nous pour prévenir de ce qui peut se passer pour eux et ce qui peut se passer pour les harceler. Je suis quand même obligée de leur en vouloir. Voilà, mon fils, il est plus là, quoi. Mais si je pouvais aider les autres avec leur ressenti à eux, ça serait une victoire de plus, un pas en avant.
Dimanche prochain, une marche blanche sera organisée à Épinal pour honorer la mémoire de Lucas. Notre manière à nous de le maintenir en vie, conclut sa maman.
Témoignage édifiant grâce à vous, Mélina Fachin, en direct d'Épinal pour Europe 1.
Le projet de réforme des retraites arrive dans l'hémicycle le 6 février prochain, mais dès aujourd'hui, il est en commission des affaires sociales.
Oui, avec un programme bien chargé, plus de 5700 amendements à examiner d'ici mercredi soir. Alexandre Chauveau, vous suivez les débats, deux visions du travail et de la retraite s'opposent.
Oui, en réalité, les députés sont assez peu entrés dans les détails techniques puisque, particularité du texte budgétaire, aucun amendement voté en commission ne sera retenu dans le projet débattu dans l'hémicycle la semaine prochaine. C'est une sorte de tour de chauffe finalement où droite et gauche se répondent à l'image de cet échange sur le sens de la valeur travail entre Antoine Léaumont, député France Insoumise, et Émilie Bonnivard, des Républicains.
Madame Bonnivard qui a parlé tout à l'heure du travail épanouissant, effectivement, Madame Bonnivard, on vous invite à aller porter des charges lourdes, payer au SMIC, et vous verrez si c'est épanouissant de se casser le dos pour un salaire de misère.
Oui, le travail est épanouissant et notre rôle est de donner les moyens à nos concitoyens d'évoluer, d'avoir plusieurs carrières.
Alors de son côté, le gouvernement continue d'étudier certains axes d'amélioration réclamés par une partie des Républicains et même de la majorité. On parle par exemple d'une meilleure prise en compte des congés parentaux ou d'une potentielle réduction de la durée de cotisation de 44 à 43 ans pour ceux ayant commencé à travailler avant 20 ans. Alors combien l'exécutif est-il prêt à lâcher pour obtenir une majorité à l'Assemblée ? 3 milliards, répond en coulisses un ministre influent, à condition de faire de nouvelles économies sur ce qui a déjà été arrêté.
Alexandre Chauveau, en direct de l'Assemblée.
Et nous serons tout à l'heure après 19h20 avec Mathieu Lefèvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Vous nous appelez au 39-21. Nous évoquerons également avec lui cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme. Demain, y aura-t-il autant de monde dans la rue que le 19 janvier dernier, ou encore plus ?
C'est en tout cas ce qu'espèrent les syndicats. De très nombreux secteurs seront en grève. Au moins 200 rassemblements sont répertoriés. David Montagnier, vous avez pu consulter la note des renseignements territoriaux. Il y a quelques craintes de radicalisation dans les cortèges.
Et oui, et c'est ce qui inquiète l'exécutif, la présence d'éléments radicaux, notamment de l'ultra-gauche, qui pourraient venir perturber les cortèges. À Paris, il pourrait être entre 200 et 400, mais aussi dans plusieurs villes comme Pau, Brest, Bordeaux, Lille ou encore Montpellier. Les lycées et les étudiants pourraient également se joindre en masse au mouvement. L'intersyndicale les incite à bloquer leurs établissements via les réseaux sociaux. Autre source d'inquiétude pour le gouvernement, les gilets jaunes qui pourraient tenter de faire dégénérer les manifestations. Environ 1200 sont attendus dans la capitale. Un secteur à observer également, celui de l'énergie. Des agents pourraient décider de coupures de gaz et d'électricité dans la journée. En tout cas, les syndicats entendent capitaliser sur un début de mobilisation réussi lors de la journée du 19 janvier. Entre 1 million et 1 200 000 manifestants sont attendus demain dans toute la France. À Paris, le renseignement prévoit entre 70 et 100 000 personnes. Et face à cette mobilisation, le ministre de l'Intérieur a annoncé 11 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, dont 4 000 à Paris, avec des consignes de fermeté données aux forces de l'ordre.
Voilà, 11 000 membres des forces de l'ordre qui seront mobilisés demain. David de Montagnier.
Demain donc, comme le 19 janvier dernier, de nombreux secteurs vont débrayer: éducation, transport, raffinerie.
Dans les écoles, la moitié des enseignants de maternelle et de primaire seront grévistes. Pas de prévision en revanche pour les collèges et les lycées. À la SNCF, le trafic devrait être très fortement perturbé. 25 à 30% des TGV rouleront, quasiment pas d'intercité, nettement moins de TGV. Même chose dans le métro parisien, très perturbé, mais moins quand même que le 19. Seules les lignes automatiques fonctionneront normalement. Alors, comment est-ce que les Français vont s'organiser ? Quelques réponses dans ce reportage d'Alexandra Gégy dans les rues de Paris.
À la sortie du travail ce soir, chacun a sa solution pour demain. Loris est commerciale, elle a même prévu deux options.
J'ai demandé si je pouvais faire du télétravail, parce que c'est possible, mais j'attends toujours la réponse. Sinon, je vais m'arrêter à un arrêt où il y a le tram pour prendre le tram. C'est un chemin que je ne prends pas d'habitude, mais voilà, c'est en plan B.
Changer son itinéraire, c'est aussi le choix de Morgane, vendeuse. Pour elle, impossible de faire du télétravail et son trajet sera bien plus long.
Une bonne heure de plus que d'habitude. Je dois marcher, prendre un tram et remarcher.
Mariam, elle, habite en banlieue et sans RER, cette étudiante devra faire une croix sur les transports en commun.
Là, on va faire un covoiturage. Il y aura une amie qui va partir nous chercher tous. C'est une vraie galère pour les personnes qui habitent dans la banlieue parisienne. C'est catastrophique.
Pour éviter ces galères, Johan a opté pour une solution plus radicale.
J'ai pris un jour de congé. Du coup, ça décompte quand même l'un de mes jours de congé. On s'organise comme ça, on s'organise comme on peut.
Johan aurait préféré garder ses congés pour de vraies vacances. Et si la mobilisation venait à se poursuivre, il sait que ce sera bien plus compliqué.
Et puis notez que dans l'aérien, à Orly, un cinquième des vols devrait être annulé.
Le débat sur les retraites qui se pose dans un contexte de vive inquiétude, avec en tête des préoccupations des Français, l'inflation et ses répercussions sur leur vie quotidienne.
Oui, le gouvernement réfléchit à un panier anti-inflation avec des produits de première nécessité à prix intéressant. Olivia Grégoire, ministre du Commerce, évoquait il y a 2 semaines un panier d'une vingtaine de produits. Bonsoir Noa Moussa.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Invité d'Europe ce matin, elle annonce des changements.
Oui, Olivia Grégoire parle maintenant d'une cinquantaine de produits, viande, produits laitiers, produits d'hygiène, et elle insiste désormais pour qu'il y ait dans ce panier des produits frais et bio, le but étant d'allier petit prix et qualité. Le défi va être de convaincre les grandes enseignes de le mettre en place, puisque aucune disposition législative ou réglementaire ne sera utilisée pour forcer la main aux distributeurs. Ce matin, sur Europe 1, Olivia Grégoire a donc appelé à la coopération.
Moi, ce que je propose aux distributeurs, une action collective, ensemble, à partir du mois de mars, pour 3 mois, pour pouvoir avoir une action sur une 50aine de produits, collectivement, ils acceptent cette proposition, tant mieux. Ils ne l'acceptent pas, bah, j'en serais fort mari.
Pour le moment, les distributeurs n'ont pas l'air de se bousculer pour mettre en place ce panier anti-inflation dans leurs rayons. Beaucoup estiment déjà avoir fait de nombreux efforts de promotion pour absorber au mieux la montée des prix.
Merci Noah Moussa.
Les ennuis de Noël Le Graët sont loin d'être terminés.
Et oui, après 3 mois et demi d'enquête, les premières conclusions de la mission d'audit sur la Fédération française de football ont été remises à l'intéressé et à sa directrice générale Florence Ardouin, qui pourront ainsi répondre aux accusations. Cyril de la Morinerie, vous avez eu accès à ce pré-rapport. Il est accablant pour Noël Le Graët.
Oui, je l'ai sous les yeux et ce rapport provisoire de 28 pages n'épargne personne, notamment Noël Le Graët. 103 personnes ont été interrogées et résultat, eh bien, ces auditions ont mis en lumière, je cite, une attitude problématique de M. Le Graët vis-à-vis des femmes, un comportement irrespectueux de la dignité des personnes. La mission a recueilli plusieurs témoignages relatifs à des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces nouveaux éléments ont été envoyés à la justice qui a d'ores et déjà lancé une enquête visant l'actuel président de la Fédération pour harcèlement moral et sexuel. La mission de l'inspection générale appelle ainsi à la démission du dirigeant breton de 81 ans, considérant, je cite, qu'il n'est plus légitime dans ses fonctions. Ce rapport qu'Europe 1 a pu consulter met en évidence une politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à la Fédération qui n'est ni efficace ni efficiente. L'attitude de la directrice générale Florence Ardouin qui a été mise à pied au début du mois est également pointée du doigt avec un rapport qui dénonce la passivité de la dirigeante alors qu'une ambiance très lourde a régné pendant quelques années à la Fédération, notamment avec des blagues sexistes récurrentes, des invectives, des injures. Le fonctionnement de la Fédération est donc dans son ensemble épinglé. Noël Le Graët et Florence Ardouin ont donc 10 jours maintenant pour formuler leurs remarques aux 3 enquêteurs. Le rapport définitif sera rendu d'ici 15 jours.
Voilà vos informations, Cyril de la Morinerie. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est à Tel Aviv en Israël dans un contexte très tendu. Sa tournée au Moyen-Orient, prévue de longue date, intervient en pleine spirale de violence ce soir. Il appelle à des mesures urgentes pour un retour au calme.
Allez, parlons maintenant environnement et recyclage. Après la consigne pour les bouteilles en verre, voici la consigne pour les bouteilles en plastique.
Et le principe est simple, on paie plus cher sa bouteille et on la rapporte dans un automate au supermarché en échange de quelques centimes. Le projet était déjà prévu dans la loi anti-gaspillage, mais la forte contestation des collectivités territoriales avait eu le dernier mot. Cette fois, Nina Droff, le ministère de la Transition écologique relance le débat.
Oui, avec une concertation qui réunit autour de la table les industriels, mais aussi les collectivités territoriales, les associations, pour essayer de trouver un compromis sur cette question de la consigne pour les bouteilles en plastique. Le système serait tout bête, vous payez 10 ou 15 centimes de plus pour votre bouteille. Une fois que vous l'avez terminée, vous la rapportez dans une machine installée en magasin et en échange, elle vous rend le supplément que vous avez payé. Puis les bouteilles sont ensuite envoyées en recyclage ou en nettoyage pour être réutilisées. Objectif, inciter les gens à trier et ainsi augmenter le taux de recyclage des bouteilles qui reste très faible en France, comme le rappelle Augustin Jacquelin, directeur de l'entreprise de recyclage Lemon Tree.
Aujourd'hui, les taux de recyclage sont à 60% en France. On atteint des taux beaucoup plus bas dans les grandes villes. On a des pays voisins qui ont des taux de recyclage beaucoup plus élevés. Et tous ces pays, sans exception, ont un dispositif de consigne. En Allemagne, vous avez 98% de taux de collecte sur les bouteilles en plastique.
Cependant, cette mesure souffre de l'opposition de nombreuses collectivités territoriales. La plupart des communes pilotent les centres de tri municipaux. Elles craignent que si les habitants ne déposent plus leur plastique dans le bac jaune, il y aura moins de plastique à recycler et donc moins de revenus pour les collectivités. Une question qui sera au cœur de cette concertation qui se terminera en juin prochain.
Nina Droff.
Un nouveau chef-d'œuvre impressionniste à contempler dès demain au musée d'Orsay à Paris.
Oui, la partie de bateau de Gustave Caillebotte a désormais sa place au 5e étage. Le tableau peint en 1878 par cet ami de Renoir et de Monet est estimé une petite fortune, Marie Giquel, 43 millions d'euros.
Oui, une belle acquisition que le musée d'Orsay n'a pas pu assumer seul, aidé par son mécène, le groupe de luxe LVMH. Alors Caillebotte, vous le connaissez pour son tableau Les raboteurs de parquet, mais aussi pour ses scènes de Paris avec des personnages au chapeau haute forme ou alors pour ses toiles au bord de l'eau avec ses canotiers. Et c'est bien le sujet de ce tableau-ci, la partie de bateau, une toile de 90 cm sur 117 qui représente un canotier chapeau haute forme et costume en train de ramer sur une rivière en Île-de-France. Le sujet, la technique, on reconnaît tout de suite le style Caillebotte. Bottes. Alors Hélène, vous pourrez apprécier cette toile dès demain si vous passez par Paris et le musée d'Orsay. Mais elle ne va pas rester longtemps. Elle voyagera l'année prochaine, prêtée à plusieurs musées pour les 150 ans de l'impressionnisme. Et puis elle retournera à Orsay pour une exposition consacrée à Caillebotte justement. Ça sera l'automne 2024. Avant de couler des jours heureux dans les collections permanentes de ce musée, 17e musée le plus visité au monde. Joli coup donc, réalisé par Orsay et LVMH, car les Caillebotte sont à ses côtés. En 2021, c'est un musée de Los Angeles qui avait acquis une toile du peintre impressionniste. Plus de 50 millions d'euros.
Voilà, vous nous avez donné envie d'aller au musée d'Orsay, Marie. Alors, bienvenue aux Caillebotte et puis bienvenue aussi au petit Félix, né hier matin dans un TGV entre Paris et l'Allemagne. Un voyageur médecin a pu aider la maman dans le train qui s'était arrêté pour l'occasion à la gare Lorraine entre Nancy et Metz. Et je vous rassure, tout le monde va bien.
C'est trop mignon.
C'est pas mal non plus les marchés financiers avec Didier Hameau de boursier.com. Didier, Paris est en légère baisse pour commencer la semaine.
Ouais, un petit peu moins mignon quand même, oui. Petite baisse, moins 21%, c'est pas grand chose. Hein. 7082 points pour commencer effectivement cette semaine qui sera marquée par les réunions monétaires de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. Ce sera mercredi et jeudi et donc logiquement le marché se veut plus prudent dans cette perspective. Des réunions qui seront scrutées à la loupe afin de définir le rythme de hausse des taux qui devrait se ralentir progressivement. Dans les entreprises, l'annonce du rééquilibrage de l'alliance entre Renault et Nissan n'a pas vraiment convaincu le marché. Renault perd ce soir 4%, 36,63 €. Ça baisse partout en Europe. C'est pas très spectaculaire, mais ça recule de l'ordre de 0,1% sur le DAX à Francfort, moins 0,2% à Bruxelles, moins 0,4% à Milan, moins 0,21% le CAC 40 à 7082 points.
Merci Didier Hameau.
Et merci à vous Hélène Zélani. On vous retrouve tout à l'heure à 20h pour un nouveau journal La Météo. Et Marlène Duret de retour dans le studio d'Europe 1. Marlène, oui. On termine ce mois de janvier sous les nuages.
Et oui, nous sommes, vous savez que les conditions sont anticycloniques en ce moment et qu'en hiver, c'est synonyme de ciel gris ou de ciel couvert. Hein, si l'humidité s'infiltre dans les basses couches de l'atmosphère, eh bien, la grisaille s'éternise. Et ça va durer comme ça 8 à 10 jours. Voilà. Seulement voilà, on a quand même notre anticyclone centré sur le proche Atlantique, des petites perturbations qu'il contourne et qui réussissent à entrer dans le pays. On en a une cet après-midi qui est arrivée, qu'on va retrouver demain sur un axe sud-ouest-nord-est avec quelques précipitations sous forme de neige sur la montagne noire des 500 mètres d'altitude et sous forme de pluie faible entre l'Auvergne, le Limousin, les Charentes, l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées. Et puis une autre aussi qui va se glisser des côtes de la Manche vers les Hauts-de-France et la frontière luxembourgeoise avec là aussi quelques petites pluies possibles.
Voilà, du soleil, il y en aura quand même demain, mais comme d'habitude, il sera le plus généreux pour nos amis du Sud-Est.
Le Sud-Est, mais pas que. On va dire des Pyrénées, au pourtour du Golfe du Lion,
d'accord.
La Provence, les Alpes, la Corse. Ça nous fait
sud-est,
voilà.
Hein, gros sud-est.
Voilà, et devrait gagner progressivement du terrain vers le Jura et le sud de l'Alsace, un petit peu vers le Piémont pyrénéen également. Et puis, je voulais vous signaler du Mistral et de la Tramontane. On en a beaucoup. Ces vents vont persister toute la semaine et c'est ce qui explique aussi le beau temps dans le sud-est.
Voilà, du retour à la normale globalement, y compris côté température.
Absolument, avec des maximales qui seront comprises entre 12 et 15 degrés demain sur le pourtour méditerranéen et en Corse. Ailleurs, comptez généralement 7 à 12 degrés, sauf sur le car nord-est du pays et le massif central où il fera plus froid. Ce qu'on prévoit par exemple 3 degrés à Épinal, 4 à Rodez, 5 à Nancy, 6 à Dijon, Colmar, Annecy. Et à Paris, il fera 9 degrés.
Merci beaucoup Marlène Duret. Heureux de vous revoir et de vous retrouver tout à l'heure également à 23h07 pile sur Europe 1.
À tout à l'heure.
Restez avec nous dans quelques instants. Nous évoquons la réforme des retraites. Vous savez que le texte, on l'a entendu pendant le journal d'Hélène Zélani, est arrivé en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Ça a été très tendu entre les opposants de l'ANUP, du Rassemblement national. On l'a entendu également. Eh bien, il y a une grande mobilisation qui se prépare pour demain dans la rue. Beaucoup de choses à dire. On va en parler avec Mathieu Lefèvre, député Renaissance, la majorité présidentielle élue du Val-de-Marne. Vous pouvez lui parler, vous lui posez vos questions. Vous nous appelez au 3921, le standard d'Europe 1. À tout de suite.